France Inter.
To be or not to be, not to be.
Un des apports les plus pertinents que la télévision a fait à la mythologie de Superman ces dernières années, c'est le fait que dans Smallville où Superman et Lois, la journaliste Lois Lane tombe amoureuse de Clark Kent avant de tomber amoureuse de Superman. Parce que s'il y a bien un cliché d'écriture qu'il faut enterrer 6 pieds sous terre, le recouvrir de compost et faire pousser des bégonias par-dessus avec une mangeoire pour Zozio, c'est le triangle amoureux dont les films de super-héros sont si friands. Dans Spider-Man, Mary Jane tombe amoureuse de Spider-Man avant de tomber amoureuse de Peter Parker. Dans le Superman de 78, Lois Lane n'a Dieu que pour Superman, mais ne calcule absolument pas le rural Clark Kent à côté duquel elle passe pourtant ses journées. Comme si le seul pouvoir, ou la flamboyance qui va avec le statut de héros, était digne d'être aimé, pas l'homme simple derrière le masque. Une facilité d'écriture qui fleure bon la misogynie des années 40 à 80.
Il a la voiture, il aura la femme.
Heureusement, on a aussi eu droit à des variations sur le thème plus intéressantes, notamment dans Batman le défi de Tim Burton, où Selina Kyle, Michelle Pfeiffer, tombe amoureuse de Bruce Wayne, Michael Keaton, tandis que leur alter ego Catwoman et Batman se séduisent également sur un tout autre terrain. Qui peut se mettre à la table de ces deux-là et dire « je suis plus romantique que vous » ? Alors le fait que Michael Keaton et Michelle Pfeiffer aient été en couple à l'époque n'y est sûrement pas étranger. D'ailleurs, je viens d'y penser. Andrew Garfield et Emma Stone dans Amazing Spider-Man, en couple dans la vraie vie. Kirsten Dunst et Tobey Maguire dans le Spider-Man de Sam Raimi, en couple dans la vraie vie. Tom Holland et Zendaya dans le Spider-Man du MCU, en couple dans la vraie vie. Les films de super-héros, c'est une application de rencontre pour stars, en fait.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
In the endless reaches of the universe, there once existed a planet known as Krypton, a planet that burned like a green star in the distant heavens. There, civilization was far advanced and had brought forth a race of supermen whose mental and physical powers were developed to the absolute peak of human perfection. But there came a day when giant quakes threatened to destroy Krypton forever. One of the planet's leading scientists, sensing the approach of doom, placed his infant son in a small rocket ship and sent it hurtling in the direction of the Earth just as Krypton exploded. The rocket ship sped through star-studded space, landing safely on Earth with its precious burden, Krypton's sole survivor. A passing motorist found the uninjured child and took it to an orphanage. As the years went by and the child grew to maturity, he found himself possessed of amazing physical powers. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound, the infant of Krypton is now the man of steel, Superman!
Si le parcours de Superman au cinéma a été semé d'embûches, avec de rares réussites souvent éclipsées par de réelles déconvenues, la télévision a toujours été une forteresse de réussites pour l'homme d'acier, et cela quasiment depuis sa création. Dessins animés, séries pour adolescents, ou même au ton plus adulte, Superman est autant une histoire de l'Amérique qu'une histoire de la télévision américaine. Et pour revenir sur cet incroyable historique, je suis en compagnie de Romain Nigita, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste spécialiste des séries télé, notamment à Mad Movies et Téléstar.
Tout à fait, bah, merci pour l'invitation une fois de plus.
Ravi de vous avoir. De toute façon, c'est le plateau des revenants. Hein. Océane Zerbini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice du podcast Lemon Adaptation Club.
Tout à fait.
Et enfin, pour parachever notre trinité de héros, Renaud Besbourdier, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes scénariste, enseignant en cinéma et auteur du livre Chang-Chi Galaxy Volume 1, Le Point Venimeux, chez Spectrum Film.
Exactement.
How's everybody this morning? Sleep well?
Alors, ça va ce matin? Bien dormi?
Oui.
Bien, je vous envie.
Last night, our publisher called me into his office.
Le directeur de la publication m'a appelé dans son bureau hier soir et il m'a posé une question. Comment se fait-il que le Daily Planet n'ait pas sorti un dossier complet sur Superman dans sa dernière édition, alors qu'il est littéralement tombé entre ses mains? J'avoue que cette critique ne m'a pas laissé insensible. Et je lui ai affirmé que tous les journalistes qui travaillent dans ma rédaction enquêteraient sans répit jusqu'à ce que nous ayons une interview à publier dans notre journal. Alors, j'ai été assez clair?
Non. Vous n'êtes pas sérieux? J'ai écrit le premier article sur lui, je l'ai amené ici, c'est moi qui ai trouvé Superman.
Si vous le permettez, c'est lui qui vous a trouvé.
Thank you, Kent. Oui, je vous remercie, Kent.
Perry, this isn't fair.
Perry, je veux cette affaire. Je dois garder l'exclusivité du sujet jusqu'au bout, sinon c'est de l'injustice.
Je dois mettre tout en œuvre. C'est très important.
Superman est à moi.
Mine, as in
my story. C'est-à-dire qu'il fait partie de mon sujet. Ce sujet est mien.
Eh bien, plus maintenant, Superman devient votre priorité numéro un. La compétition est ouverte.
C'était un extrait de Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman, avec Dean Cain dans le rôle de Clark Kent, Terry Hatcher qui interprète Lois Lane, et Lane Smith dans le rôle de Perry White, le chef du Daily Planet, avec, dans les voix françaises, Emmanuel Curtil qui joue Clark Kent, Claire Guyot qui joue Lois Lane, et Michel Bardinet qui joue Perry White. J'aimerais qu'on ait une pensée émue aussi pour la personne qui essayait de joindre un journaliste du Daily Planet pendant cet extrait et vraisemblablement personne n'a répondu. Vous réécouterez cet extrait, il y a un téléphone qui sonne sans discontinuer et moi je me dis, voilà, ça se trouve, il y a quelqu'un qui dit, je suis en face de Superman, je suis en face, et personne. Ou alors il y a un immeuble qui brûle. Enfin bref, c'est un détail. Ma première question, c'est comment, Romain, elle s'adresse à vous.
Hein. Je vous écoute, bah, oui. Frédéric.
Comment explique-t-on ce lien si étroit entre Superman et la télévision?
Eh bien, tout simplement parce que les séries, le format épisodique, c'est le même que dans les comics. Les comics, on a un numéro par mois. La télé, les séries, et même avant ça, les céréales, et même avant ça, la radio. Parce qu'il y a eu un feuilleton radiophonique, oui. Superman, qui est prodigieusement important, qui a apporté plein de choses à la mythologie. Je suis un tout petit aparté. La kryptonite, c'est la radio qu'il a inventée. Perry White, qu'on vient d'entendre, c'est la radio qu'il a inventée. Jimmy Olsen aussi. Le fameux, c'est un oiseau, c'est un... Eh ben, c'était l'intro de la série radio, et c'était absolument pas dans la BD. Donc toutes les adaptations épisodiques, pour moi, correspondent au format comics, parce qu'on a ce côté récurrent, ce rendez-vous pour les auditeurs ou les téléspectateurs, ces personnages qu'on aime retrouver. Donc c'est tout à fait adapté, beaucoup plus finalement qu'un long métrage bouclé, au bout d'une heure et demie c'est fini, alors que non, on veut revenir la semaine d'après.
Et il y a aussi la série avec George Reeves qui a marqué toute une époque.
Complètement, qui a été un énorme succès dans les années 50 aux États-Unis, qu'on a vu beaucoup plus tard en France, je crois au tout début de Canal+, si je dis pas de bêtises.
Ce qui est d'ailleurs très étrange comme série, parce qu'elle a vieilli.
Elle a très mal vieilli même. Et cette série, donc, qui est la première adaptation d'un super-héros de comics à la télévision américaine, elle-même est l'héritière directe des céréales, puisque son pilote a été d'abord sorti dans les salles aux États-Unis. C'était Superman versus The Mole Men, qui était traduit en français par Superman contre les nains de l'enfer.
Ah oui.
Voilà, là, le titre aussi très mal vieilli.
Alors que là, on était plus contre l'homme taupe, en fait.
Les hommes taupes, ouais. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui fait l'adaptation.
Ouais.
Et qui succédait à deux céréales qui étaient avec un autre acteur, Kirk Allen, qu'on a retrouvé dans un tout petit rôle dans le film de Richard Donner à la fin des années 70. Mais voilà, on a vraiment ce continuum entre la BD, la radio, le serial, la télé. Donc, c'est pas forcément que la télé était adaptée, c'est qu'il y a toujours eu un appétit d'adapter Superman dans son format naturel, qui est celui d'une fiction à épisode qu'on retrouve régulièrement. Donc, pour ça, la télé était tout indiquée, même si en effet, cette première série dans les années 50, avec les problèmes, on va dire, de budget, d'effets spéciaux, finalement, c'est plus quasiment une série policière qu'une série de science-fiction la plupart du temps, à part les fameux nains de l'enfer du premier épisode. Superman va traquer des gangsters. On est plus dans des histoires à la Batman, finalement, qu'à la Superman.
Océane, Renaud, alors ce n'est pas à vous faire insulte que de dire que vous êtes un peu plus jeune que nous, mais je sais que vous furetez énormément quand vous découvrez quelque chose, c'est que vous regardez ensuite tout ce qui a pu précéder. Donc est-ce que toute cette mythologie télévisuelle de Superman vous a interpellé?
Oui, tout à fait, parce que moi j'aime bien l'idée de voir plusieurs versions d'un même personnage. Depuis que je suis toute petite, en fait, bah, j'avais déjà dit dans l'épisode sur la série animée Batman, mais quand on grandit avec les dessins animés du samedi et du dimanche matin sur France 3...
F3X, la légende des héros, là, le choc des héros. Ouais.
Bah forcément, on grandit avec énormément de choses et énormément de versions. Et pour Superman, bah, c'était un peu moins flagrant parce qu'il y avait la Ligue des Justiciers et l'Ange de Métropolis, et c'est un peu les mêmes designs, notamment par Bruce Timm. Mais c'est avec cette version-là que j'ai grandi. Et ensuite, ça s'est fait de manière assez sporadique avec un épisode par-ci de Lois et Clark, un épisode par-ci de Smallville à 23h30 sur M6. Et il a fallu que je grandisse pour vraiment tout découvrir à chaque fois en intégralité. Mais ça m'a toujours bercé.
Renaud ?
Moi, j'ai grandi avec la série des années 90 et Superman, c'est mon super-héros préféré. Donc, j'ai exploré assez largement et je fais une recommandation à la médiathèque de Limoges parce que j'ai emprunté beaucoup de VHS à droite à gauche. Effectivement, en fait, quand on s'intéresse à Superman et qu'on voit qu'il existe de nombreuses itérations, on pioche à droite à gauche et on tombe sur, effectivement, tout et n'importe quoi, dont les séries d'avant cette période-là qui m'ont beaucoup marqué aussi. Même si je les ai découvertes à cette époque-là de manière assez anarchique. Et ensuite, je les ai reprises dans l'ordre pour découvrir tout ça de manière plus cohérente.
Romain Nigita, j'ai souvenir. Alors, en plus, vraiment là, je parle. J'ai plongé dans les méandres de ma mémoire, mais j'ai souvenir d'une série Superboy.
En fait, il y a eu deux séries Superboy. Il y a eu un pilote qui n'a rien donné juste après la fin de la série des années 50. C'est un pilote qu'on peut trouver en bonus dans les coffrets DVD des films. Il y a même eu un truc super pup avec des nains avec des masques de chiots. Bref, passons. Et il y a eu ensuite la série, la vraie
J'ai
série.
J'ai tellement envie de voir cette série.
Ça aussi, c'est en bonus dans le coffret DVD. Mais non, il y a la vraie série Superboy dans les années 80 qu'on a vu. Anarchique dans La Une
oui.
est à vous.
Oui.
Présenté par Bernard Gollet puis Bernard Montiel, on téléphonait pour choisir la série qu'on voulait voir. Non, je veux voir Le Magicien, je veux voir MacGyver, non, je veux voir Superboy. Et cette série Superboy était produite par les mêmes producteurs qui avaient fait les films avec Christopher Reeve.
Les producteurs Salkin.
Il y a Salkin et Peter Salkin, donc le père et le fils. Et c'est une série assez bizarre puisque entre la première saison et les deux suivantes, on change d'acteur pour jouer le rôle de Superman, on change complètement l'orientation parce que la première est vraiment une série de lycée, et à partir de la saison 2, c'est gros délire science-fiction dans tous les sens. Il y a même, à partir de cette saison 2, des scénaristes du comics qui viennent bosser sur cette série-là. Donc là, vraiment, on a un truc qui est en plein dans... Allez, on adapte tout ce qu'on n'a jamais pu faire dans les films, parce que dans les films, on se dit, ok, la personne qui paye son billet va pas connaître la mythologie, mais là, on y va à fond. Donc c'est une série qui est un peu schizophrène, mais qui est intéressante à redécouvrir, surtout à partir de la saison 2. Franchement, on peut zapper la saison 1.
Et il y a cette série qui a quand même eu un certain rayonnement en France, Lois et Clark avec Terry Hatcher qu'on trouvera ensuite dans Desperate Housewives, Dean Cain qu'on trouvera ensuite aux côtés de Donald Trump.
Bien sûr. Chacun son parcours.
Voilà. Hein, nous ne sommes absolument pas dans le jugement. Comment est née cette série ?
Alors, comment est née cette série ? Ce qui est intéressant avec Superman, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une série, on lui donne une orientation différente. Et là, c'était clairement l'idée de faire une série qui s'adresserait à un public féminin. Donc pour ça, ils sont allés chercher une scénariste, Deborah Joy Levin, et ils sont allés chercher pour réaliser le pilote, l'homme qui avait réalisé le pilote de Clair de Lune. Donc la fameuse série...
D'ailleurs, la filiation est directe.
Hein. Ah bah c'est clairement, c'est un ton Clair de Lune entre Lois et Clark, le côté est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas ensemble.
Je rappelle aux auditeurs, Clair de Lune avec Bruce Willis et Sybil Shepherd.
Et ce réalisateur, Robert Butler, c'est un géant de la télé, puisqu'il a réalisé les pilotes de séries absolument cultes. Il a fait le pilote de Star Trek, j'étais obligé de le citer, le pilote de la série Batman de 66, donc là aussi quand même, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et donc, c'est lui qu'on va chercher. Le pilote de Hill Street Blues aussi. Excusez du peu.
Oui, beau CV. Hein.
Énorme CV. Et puis, au cinéma, par contre, pas terrible. Hein. Un truc d'avion avec Ray Liotta qui se passe mal. Turbulence à 6000 pieds.
Ah oui, oui, c'est oui. Oui, oui.
Ah, bah, c'est lui.
Turbulence avec des terroristes.
Non, c'est pas les turbulences. C'est un serial killer dans un avion.
Ouais. Ah voilà.
Très bonne BO.
Voilà. Oui, un serial killer.
Un film de maison hantée dans un avion.
Serpent, n'importe quoi dans un avion.
Bref, enfin, on va chercher ce type-là parce qu'il a fait Clair de Lune et on se dit, on veut vraiment donner ce même ton. Et c'est pas pour rien si, du coup, en France, il y a eu ce retentissement parce que c'était utilisé pour la première fois en prime time sur M6, chaîne qui, surtout dans les années 90, avait cette image chaîne féminine. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils se sont dit « Ok, c'est une série qui s'adresse plutôt à un public féminin, c'est pas un truc de gros bourrin musclé avec une cape. » Et c'est totalement réussi de ce point de vue-là, même si là aussi, il va y avoir des changements de showrunner après la première saison. Ça va se perdre, là aussi, on va aller un peu trop dans la mythologie. Mais la première saison, dans cet objectif-là, en tout cas, à mon sens, c'était plutôt réussi.
Mais qu'avez-vous pensé quand vous avez découvert Lois et Clark, la série Océane?
Alors moi, j'ai vraiment adoré la première saison. C'est vraiment une comédie romantique avec des éléments de science-fiction. Un couple principal qui a une super alchimie. Donc effectivement, c'est un peu vieilli sur certains aspects, mais il y a un tel charme, il y a un tel... même tous les personnages autour du Daily Planet, ils sont tous très réussis. Et vraiment, le départ de Cate Grant m'a vraiment déçue parce que je l'ai trouvé génial.
Qui est une journaliste, du coup, qui est la journaliste People et qui sert...
Qui jalouse Lois Lane.
Voilà, exactement. Parce qu'elle elle voit les charmes de Clark que Lois ne voit pas et ça permet de complexifier les amourettes puisque Lex Luthor, dans cette version-là, lui aussi est un séducteur.
Oui.
Il a des cheveux.
Il a des cheveux. C'est la version capillaire de Lex Luthor. Ouais.
Mais juste dire aussi qu'on sent un peu quand même que c'est la... C'est un peu, il y a une série où on sent encore quelques aspects un peu de la Reagan, je trouve, à la revoyure, et qui souffre aussi d'une vision assez conservatrice du couple et de la famille. Mais justement, dans la saison 1, c'est tellement en retrait que plus ça va au fur et à mesure des saisons, et plus en fait ça se vautre vraiment dans un truc très républicain, notamment parce que Dean Cain était déjà très républicain.
Oui.
Mais par contre, en fait, c'est une des rares séries où Superman, l'acteur aussi, est métisse. Et il a des origines asiatiques, me semble-t-il, et caucasiennes. Et en fait, c'est une des rares séries où on se dit que, effectivement, Superman, même dans son apparence, il est entre deux mondes. Il est métissé. Et en fait, c'est peut-être une des rares choses un peu progressistes, je trouve, de la série par rapport à tout ce qui est arrivé après, même si les séries après, donc Smallville et tout ça, ont fait des efforts. Mais pour moi, Lois et Clark a aussi un de ses rares avantages d'avoir su saisir l'opportunité d'avoir une représentation de Superman qui physiquement correspond à l'idée, il est grand, baraqué, les cheveux noirs et tout ça. Mais il y a quelque chose dans ses traits qui correspond à l'idée aussi qu'on se fait d'un immigré, parce que Superman, c'est aussi un immigré.
Renaud ?
Et alors moi, c'est un détail, parce que je soutiens tout ce qu'a dit Océane, je suis complètement d'accord, mais j'apprécie dans les formats séries de live action de Superman, et notamment celle-ci, le fait que les limites budgétaires empêchent le spectaculaire et obligent donc de travailler tout ce qui est les super-pouvoirs de Superman sur des choses très triviales, mais ce qui permet, à travers la contrainte, d'avoir des vraies bonnes idées artistiques et aussi des trucs très rigolos, comme le voir donc se raser avec un miroir, avec ses yeux laser, ou se sécher très très vite avec une serviette en se frottant à la vitesse sonique.
Enfin, la cuisine aussi.
La cuisine aussi, voilà.
Enfin, il y a une scène incroyable.
Je me suis toujours demandé comment c'est la serviette la plus solide
du
exactement,
monde. Oui, exactement. Et dans le pilote aussi, il y a un petit truc où il me semble qu'il lui dit « Oui, tu veux manger quoi ?» Je prends chinois et donc on a une image de globe. Il fait le tour du monde, il va ramener ça de Hong Kong. Donc il y a des petites idées comme ça que je trouve très malines.
Il fait pas travailler le commerce local.
Non, pas du tout. Mais bon, ça ajoute au charme de la série qui en a beaucoup et qui a un très beau thème musical aussi. Très très beau thème musical, je trouve.
Alors on est justement sur les thèmes musicaux, mais c'est pas le morceau que j'ai choisi pour illustrer cette chanson. Dommage.
J'ai vraiment lancé une perche en plus.
Ah, mais elle était grosse, mais je me l'ai soupiré en pleine tronche, là. Une trépanation, en fait, on peut dire ça. Moi, j'avais choisi, évidemment, Save Me. Mais oui, de Smallville, interprété par Rémi Zéro, parce que Save Me, quoi. I'm
Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter.
Ça va ?
Je viens traîner dans un cimetière. Tu trouves cette attitude normale, toi ?
Hey, je suis là aussi.
Ouais, bien sûr. Pourquoi tu viens ici ?
Tu peux garder un secret ?
Avec moi, les secrets sont en sécurité.
D'accord. Je viens ici pour discuter avec mes parents, Clark. Tu dois trouver ça bizarre, les gens qui parlent aux morts dans les cimetières.
Non, je trouve pas ça bizarre, Lana. Tu te souviens bien d'eux ?
Quand ils sont morts, j'avais 3 ans.
Je suis désolée.
Mais c'est pas de ta faute, Clark. Tu viens, on va aller les voir. Maman, papa, je vous présente Clark Kent. Dis-leur bonjour.
Bonjour.
Oui, il est plutôt timide.
C'était un extrait de la série Smallville, créée par Alfred Koff et Miles Millar. J'allais dire Miles Morales, mais non, pas du tout, ça c'est autre chose. Où l'on entend Lana Lang, interprétée par Christine Kruk et Laura Blanc pour la VF, et Tom Welling dans le rôle de Clark Kent avec Tony Maro pour la VF. Alors, ce qui me frappe en revoyant Smallville, en repensant à Lois et Clark, c'est que le premier numéro de Superman s'intitulait Action Comics. Donc voilà, tout est dans le titre. Et pourtant, ces deux séries ont mis l'accent sur le côté soap opéra. Donc Roman Higita, comment on explique ce casting? Parce que vraiment, si t'as envie de raconter une histoire d'amour entre des protagonistes, des triangles amoureux, est-ce qu'il faut se tourner vers un comics qui s'appelle Action Comics?
Bah déjà, en télé, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des effets spéciaux pour faire des grandes scènes d'action. Les gens vont forcément être un peu déçus. Il faut avoir une trame suffisamment longue pour revenir chaque semaine. Donc finalement, tisser des aventures amoureuses, voire des triangles amoureux, voire des quadrilatères amoureux, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. En plus, dans le cas de Smallville, c'était une série qui était produite pour une chaîne qui était vraiment destinée aux teenagers. D'abord WB, puis CW, qui résultait de la fusion de WB et UPN. Bref... mais voilà, il y avait vraiment cette volonté.
Là, je sais qu'il y a des auditeurs qui ont le nez qui saigne et tout.
C'est ça, qui se souviennent nostalgiques. Enfin, en France, c'était sur M6. Hein, voilà, il y a vraiment cette orientation, cette idée d'aller, tout comme Lois et Clark, de draguer un public plutôt féminin. Là, c'était de draguer un public adolescent. Donc, quoi de mieux qu'une amourette dans un lycée pour attirer des adolescents.
Avec que des adolescents qui ont tous 25 ans.
Voilà, moi, c'est un des trucs qui m'avait rebuté au départ. Mais le monsieur, il est au lycée, mais il a 45 ans. Bref. Donc c'était un peu la limite, en tout cas, de la première saison ou des premières saisons de Smallville, qui était vraiment contraint dans ce cadre-là.
Oui, parce qu'il y a eu plus de 10 saisons. Enfin, il y a eu 10 saisons.
10 saisons. C'est, 10 saisons. Mais c'est le record total. Pour non seulement pour Superman, mais pour une série adaptée d'un personnage de comics.
Mais The Flash de aussi de la CW, un
qui a fait 7 saisons. Ouais. Tom Welling, c'est celui qui aura joué le plus longtemps le personnage, le plus de saisons. Mais parce que, justement, la série a su évoluer. Elle a su dépasser ce cadre lycéen, bouette amoureuse, puisqu'à partir, je crois, de la saison 6 de tête, il habite à Metropolis. On n'a plus Lana Lang, mais on a Lois Lane. C'est quasiment, quasiment deux séries différentes. Ouais. Et moi, je dois avouer que j'avais vraiment pas accroché au départ et je suis revenu plus tard.
Mais moi, je veux défendre la série parce que j'ai vraiment grandi avec et je veux la défendre dès ses débuts. Elle aussi a eu droit à un bon réalisateur d'ailleurs pour son pilote, parce que c'est David Nutter que les fans de Game of Thrones connaissent bien. Je trouve que c'est une série qui a eu l'intelligence de réinventer la mythologie de Superman pour mieux la servir à un public qui avait donc mon âge à l'époque. J'avais l'âge parfait pour découvrir et saupoudrant la mythologie à droite à gauche et en s'imposant une règle, encore une contrainte qui était pas de vol et pas de costume, no tights et no flights en anglais. Ouais.
Donc il courait très vite dans un flou artistique rouge.
Oui, oui.
Le bleu.
Oui, ça arrive tard, le bleu. Mais dans l'idée de départ, il y a cette idée de transformer du coup tout ça dans ce contexte-là. Donc sa forteresse de la solitude, c'est donc son grenier dans la grange de ses parents. La kryptonite intervient aussi très rapidement dans la série. Et surtout, la meilleure idée, c'est celle du personnage de Lex Luthor, qui est l'ennemi donc de Superman, qui ici est amené en point de départ comme son ami qui se doute de quelque chose et qui a des problèmes avec son père et qui font qu'en fait, en connaissant, nous, le spectateur, ce que va devenir Lex Luthor, parce qu'on connaît le personnage, il y a une ironie dramatique, on s'attend à ce qu'il devienne méchant, mais en même temps, on n'a pas envie qu'il le devienne totalement, parce qu'il a un bon fond aussi. Et ce curseur-là, cette dynamique-là, fait que à l'époque, ça marchait encore très bien sur moi.
Clark ? Les hommes peuvent voler, tu crois ?
Bien sûr, en avion.
C'est pas de ça dont je parle, Clark. Je parle de planer dans le ciel entre les nuages en pleine immensité.
L'homme ne vole pas, Lex.
Je l'ai fait. Après l'accident, mon cœur a arrêté de battre. Et là, j'ai vécu les deux minutes les plus exaltantes qu'il soit possible de vivre. J'ai survolé Smallville. Et j'ai vu que la vie n'était pas une voie sans issue. J'ai vu une nouvelle ère. L'avenir, c'est nous, Clark. Je voudrais que rien n'entrave jamais notre belle amitié.
Vous venez d'entendre un extrait de Smallville avec Lex Luthor, interprété par Michael Rosenbaum, et la voix de Damien Ferrette en version française, et toujours Tom Welling dans le rôle de Clark Kent avec Tony Maro pour la VF. Alors Michael Rosenbaum, qui suite à Smallville, non seulement a marqué énormément de gens dans le rôle de Lex Luthor, mais a été adoubé par tout le fandom geek, parce que c'est quelqu'un qu'on retrouve à la fois en tant que doubleur dans de nombreuses séries, notamment Justice League Unlimited, mais aussi en tant qu'acteur dans le MCU avec les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est un ami de James Gunn.
Oui. Absolument, il avait tourné une série peu recommandable qui s'appelle PG Porn. Ils avaient fait ça ensemble, ne regardez pas ça, mais c'était des amis très proches. Ouais.
Et d'ailleurs, ça a été une immense surprise pour moi de le découvrir avec des cheveux dans un épisode très très tôt de It's Always Sunny in Philadelphia.
Oui.
Et vraiment, je me suis dit, mais la versatilité de cet acteur exceptionnel.
C'est ce truc assez prégnant chez les chauves, et je sais de quoi je parle, c'est quand à un moment donné, on découvre qu'ils peuvent aussi avoir des cheveux. Généralement, c'est plutôt avant, plutôt qu'après.
Mais d'ailleurs, le Lex Luthor de Smallville a ce complexe par rapport à ses cheveux, qui est, je trouve, assez touchant, parce que donc on apprend qu'il devient chauve extrêmement vite dans son enfance, que c'est un vrai traumatisme physique pour lui. C'est une des rares fois où on voit un enfant chauve, déjà dans une série, et ensuite assez jeune. Et justement, ça apporte aussi beaucoup de complexité au personnage, parce qu'il est une victime un peu collatérale de l'arrivée de Superman sur Terre. Et on pourrait se dire, bah, c'est entre guillemets que des cheveux. Mais on voit à quel point ça a aussi forgé un peu sa personnalité et aussi son complexe par rapport aux gens de son âge ou même un peu plus jeune.
Moi, je le dis, à chaque fois que quelqu'un se moque de mon manque de cheveux, je dis, vous êtes à un génie du mal prêt.
Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, du coup. Hein.
Romain Higita, il faut qu'on parle de la gentille Chloé de cette série.
Autant qu'on ne parle pas de l'actrice.
Faut-il en parler ? Non, ce qui est intéressant, un peu comme les éléments qui ont été apportés par la série radiophonique dans les années 40, le personnage de Chloé, qui est cette camarade de classe de Clark Kent et qui veut devenir journaliste, qui travaille dans le journal de l'école, etc.
Et qui vit au beau milieu d'un royaume, d'un microcosme, d'un royaume autonome au sein de Smallville qui s'appelle la Friend Zone.
Oui, c'est-à-dire qu'elle admire Clark, il ne se passe jamais rien. Mais c'est un personnage intéressant dans la série et qui a tellement marqué qu'il a fini par intégrer le comics par la suite, ce qui est quand même relativement rare. Comme autre exemple, il y a Harley Quinn qui avait été créée dans la série de May Batman et qui finalement maintenant a intégré vraiment le comics, les films, etc. Et en effet, il y a un petit peu un côté obscur à cette histoire, puisque l'actrice qui jouait ce personnage a eu des démêlés avec la justice dans une sombre histoire de secte, des jeunes femmes qui étaient attirées, tatouées, agressées sexuellement, enfin un truc vraiment...
C'était hardcore.
Voilà, il y a même eu un téléfilm qui est passé sur TF1 l'après-midi, enfin vous voyez le genre de téléfilm, genre j'ai couché avec le mari de ma femme, etc. Les trucs produits par Lifetime aux États-Unis. Bref, voilà, malheureusement, on se souvient plus de ce personnage-là pour cette histoire par la suite que par l'apport à la mythologie.
Et en même temps, Smallville, c'est un petit peu la série mémoriale de toute la mythologie cinématographique de Superman, parce que Annette O'Toole, qui joue la mère de Clark dans la série, jouait Lana Lang dans Superman 3, si je ne m'abuse. Helen Slater...
Supergirl.
Supergirl.
par Jeanne Swark.
Oui, il y a la future Lois Lane. Dans oui. un épisode, Amy Adams oui. joue un personnage. Oui,
Margot
oui.
Kidder, ouais. Dean Cain.
Margot Kidder.
Et Christopher Reeve.
Et Christopher Reeve lui-même surtout, qui vient. Ouais. Il était déjà en fauteuil roulant.
Ouais. Il vient amener en fait la mythologie. C'est lui qui révèle en fait des choses au personnage de Clark. Puisque une des idées que j'aime bien aussi dans la série, c'est d'éparpiller les origines et tout son rapport à Krypton comme un mystère au fur et à mesure des épisodes. Puisqu'il est un adolescent, il construit son identité et ça ajoute du doute dans sa construction.
Et au fur et à mesure, d'ailleurs, on sent dans la série que ce cahier des charges qui s'était donné de ne jamais montrer le personnage en costume, de ne pas le faire voler, ou ce genre de choses, on sent qu'au bout d'un moment, les contraintes sont génératrices de liberté, mais des fois, les contraintes sont juste des contraintes.
Oui, mais je pense que c'est pas absurde que les showrunners soient partis après oui. la saison 7, en vrai. Au bout d'un moment, ça devient trop compliqué.
Mais c'est une contrainte qui était imposée par Warner, en fait. C'est ça qui a toujours un peu plombé les adaptations de Superman à la télé, c'est qu'il y a toujours, chez Warner, quelqu'un qui disait, mais attendez, on va peut-être refaire un film dans pas longtemps, donc ne faites pas un Superman en même temps, les gens vont pas comprendre. Donc c'est de là aussi que venait, même si finalement, dans les années 2000, il n'y a jamais eu, à part le film Superman Returns de Bryan Singer,
oui,
avec Brandon Routh, qui lui derrière a intégré le Arrowverse sous un autre personnage.
On va y venir. Voilà. Ça c'est un chapitre entier. Voilà.
Wow.
Ah non, Superman à la télévision, c'est quelque chose.
Voilà. Mais voilà, c'est vraiment la volonté de Warner de dire non, attention, non, on se réserve ça pour le ciné. Exactement comme avec Batman, c'était compliqué de faire du Batman à la télé parce que il y avait les films qui marchaient à la télé. Donc c'est ce qui se passait avec Gotham. Pareil, Gotham, il n'y a pas le costume, sauf un tout petit peu dans le dernier épisode.
Gotham Knights.
Et Godanet,
les gens qui s'en souviennent,
mais sans Batman.
Sans Batman qui est
voilà. Sauf la première scène, effectivement.
Oui. Donc il faut toujours comme ça naviguer en fonction de ce que le grand pont de Warner Cinéma va dire en regardant avec un regard méprisant les petits gars de la télé en disant écoutez, allez avec vos jouets dans le bac à sable, mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire.
Et ensuite arrive évidemment ce morceau d'anthologie qu'on appelle l'ère CW avec la série Arrow. Oliver Queen joue Batman.
Oui, non,
se prend pour Batman, mais avec le costume de Green Arrow. C'est ma ville. Je défends ma ville, etc. Et au fur et à mesure, on introduit Flash, puis on introduit plein d'autres super-héros, etc. Et au final, on se retrouve avec sûrement la version la plus large de héros DC Comics mis sur un petit écran, là où le cinéma continue de galérer à le faire, parce que oui, Flash qui avait déjà eu droit à une série dans les années 90, si je ne
Ouais, 92, avec Jerry Siegel, qu'on retrouve d'ailleurs, dans qui joue le père.
Et puis qui joue Jay Garrick aussi.
Oui.
Un autre, le Flash du Silver Age. Et donc, comment s'est développé cet univers étendu sur petit écran?
Au fur et à mesure, pièce par pièce. En effet, ça commence avec Arrow. Et Arrow est un succès que, honnêtement, personne n'attendait, je pense. Toujours sur la fameuse CW, la chaîne qui, avant ça, utilisait Smallville. Et chez Warner, là aussi, je pense qu'ils se sont dit « Ok, chez Marvel, ça cartonne, il faut qu'on fasse quelque chose, on s'en fout, allez-y, faites ce que vous voulez, prenez tout ce que vous voulez, sauf Superman et Batman, comme d'hab. » Et donc, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont pousser le curseur jusqu'à mettre Supergirl, jouée par Melissa Benoist, qui venait de Glee, qui est absolument géniale dans le rôle. Et là, chez Warner, ils se sont dit « Bon, ok, Superman, allez-y, parce que nous, ça marche pas. On essaie avec Justice League et que l'autre fada de Zack Snyder, donc on laisse tomber. Donc allez-y, faites-le si vous voulez. »
Vous savez que Romain, on n'a rien qu'en ayant dit cette phrase-là.
RIP.
C'est trois nuits où je vais pas dormir, où je vais avoir des notifications. Oui, je vais pourrir ta mère.
Mais j'interprétais le patron de Show Warner.
Licence artistique, monsieur.
Exactement.
Licence artistique.
Mais voilà, c'est vraiment au fur et à mesure que... Et on peut même aller jusqu'à dire que le Arrowverse est bien plus réussi que l'univers Marvel en télé.
Il y a
une vraie cohérence. On assume complètement le genre super-héros. Ils ont quand même fait Crisis on Infinite Earth, qui est peut-être la saga la plus connue de DC, dans laquelle il y a tous les personnages, et dans laquelle, là aussi, ils ramènent d'anciennes versions de
Kevin
Superman.
Kevin Conroy,
Batman. Mais Brandon Routh, qui revient et qui jouait dans Legends of Tomorrow, qui jouait Atom, et qui reprend le costume de Superman pour faire le Superman de Kingdom Come.
Et puis Tom Welling.
Tom Welling aussi,
bien sûr, qui refuse de porter le costume par honneur.
Et qui assume son âge.
Oui.
Oui.
Et sa scène est très très classe. Donc tout ça, même si au bout d'un moment, avec les dernières séries de l'univers, les trucs comme Batwoman et tout ça.
Oui, mais il y a eu de très bonnes surprises qui sont complètement passées inaperçues, comme Doom Patrol,
oui.
qui était une très bonne série.
Mais qui n'est pas directement.
Mais il y avait quand même des...
Et en parallèle, il y a eu Krypton.
Oui, mais
sur Sci-Fi.
Ah oui, c'est
vrai. Il y a eu ça aussi, mais par rapport à la Rover, je trouve que une des grandes réussites, et on en parlait avant l'émission avec Océane, c'est l'aspect politique, en fait. Parce que c'est pendant le premier mandat de Trump que ça a lieu.
Et notamment Supergirl. Ouais.
Exactement. Et notamment Supergirl, qui va utiliser la figure des aliens comme des immigrés, en fait, qui sont stigmatisés et violentés pendant tout le mandat.
Et avec l'une des premières super-héroïnes transgenres de la télévision, je crois, dans Supergirl.
Et la sœur adoptive de Supergirl est lesbienne. Là aussi, on a un personnage ouvertement gay dans une série de super-héros. Et la storyline politique dont tu parlais, le méchant de la saison, c'est un homme politique qui fait des conventions politiques devant des possibles électeurs. On est vraiment totalement là-dedans.
Et comment a reçu... parce que le Arrowverse s'est arrêté, mais ça jouit quand même d'une popularité énorme. Est-ce que c'est les audiences qui se sont érodées au fur et à mesure ?
Il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois un problème d'audience et le fait que cette fameuse chaîne dont je parle depuis tout à l'heure, CW, a été vendue à un groupe de médias indépendants. Parce que jusque-là, CW appartenait d'un côté à Paramount et de l'autre à Warner.
Oui.
Donc deux studios, notamment Warner, qui possèdent DC. Donc c'était dans son intérêt d'exploiter les licences pour ensuite vendre les droits aux chaînes étrangères, plateformes, etc. Et ils ont vendu cette chaîne à un groupe indépendant qui n'en a strictement rien à faire et qui maintenant a fait de cette chaîne-là une chaîne généraliste. Pour adultes, donc ils rediffusent des séries canadiennes, des choses comme ça. Donc les séries de super-héros pour les jeunes, ils en ont absolument rien à faire. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait l'ultime saison de Superman et Lois au rabais, où ils ont viré la moitié des acteurs. Ils ont quand même pu écrire une fin. Mais voilà, c'est plus à cause de cette vente de la chaîne que ça s'est un peu terminé.
Et je sais que pour The Flash, c'était aussi l'arrivée prochaine du film sur les grands écrans qui ont fait...
Succès que l'on sait.
Et pourtant, Ezra Miller fait un caméo dans des crossovers.
Oui, c'est vrai.
C'est ça le paradoxe.
Oui, parce que c'est l'avantage de Flash, comme il arrive à briser le mur des réalités et aller dans des mondes alternatifs.
Il y a aller chez les gens aussi.
Il arrive aussi à aller de chaîne en chaîne, parce que au début Supergirl c'était sur une autre chaîne,
c'était
sur
CBS.
Il y avait eu le crossover qui a fait qu'après ils avaient eu des histoires de, bon, c'est un multivers mais on va les ramener dans notre univers. Un problème qu'ils ont eu après aussi avec Superman et Lois, qui a d'abord été pensé comme un spin-off de Supergirl,
oui,
et qui ensuite au fur et à mesure du Covid ils ont dû enlever tous les éléments qui faisaient que c'était un spin-off. Donc finalement ils ont dit non, c'est une réalité parallèle, on oublie tout ça.
Mais avec des acteurs comme l'acteur qui joue John Deagle, qui est de retour,
oui, qui change pas lui.
Voilà. Lui change pas.
Lui, c'est une invariable. C'est un point d'ancrage dans toutes les réalités.
Exactement.
John Deagle, qui en plus, dans le Arrowverse, a été promis à mille et un rôles de super-héros, jusqu'à Green Lantern, et puis finalement, rien.
Oui, même dans le final de Green Arrow, de Arrow, on le voit, je crois, tomber sur une bague avec une grande lumière verte, très subtile.
Oui, c'est très
drôle.
Comme quoi, ils y croyaient beaucoup plus que les producteurs de chaînes. Et en même temps, Superman a aussi eu une vie en dessin animé absolument énorme, notamment avec la série animée qui... Je fais partie de ceux qui la défendent autant que le Batman, la série animée, qui était extrêmement réussie, Renaud.
Oui, bah moi c'est mon adaptation préférée de Superman, c'est celle avec laquelle j'ai grandi, que j'ai revue beaucoup de fois avec grand plaisir, qui est effectivement développée dans le même univers donc de Bruce Timm, d'Alan Burnett et de Paul Dini, qui est pour le coup très cosmique, qui va en fait emprunter tout ce qu'a apporté un auteur qui s'appelle John Byrne aux comics dans les années 80, à partir de 86 il me semble, dans leur univers, et donc explorer vraiment le spectaculaire pour le coup de Superman dans un univers très lumineux à l'opposé de la série Batman très sombre. C'est une série formidable avec une excellente musique. Il y a beaucoup d'excellentes musiques chez Superman, mais celle-ci est particulièrement délicieuse, dirigée par Shirley Walker, une superbe compositrice qui manque à la musique de film.
Déjà sur Batman aussi.
Tout à fait, déjà sur Batman, c'était elle aussi.
Et une série où on voit aussi apparaître de nombreux autres héros au fur et à mesure. notamment Batman dans le triptyque World Finest.
Tout à fait, oui.
Série qui se termine sur l'affrontement avec Darkseid et qui ouvre ensuite, je me souviens très bien comment ça avait été diffusé à cette époque, sur Justice League, où là il va y avoir un casting de héros qui va tourner d'épisode en épisode avec Green Arrow, Supergirl et tout ça. Où là vraiment le fanboy en moi était dans un orgasme qui a pris fin.
C'est tout.
Parce que ça n'a pas duré longtemps.
Bah mais quand même, des épisodes sur Booster Gold. Oui. Qui pouvait rêver de ça, quoi.
Oui.
Non, vraiment, c'était formidable cette évolution et avec un. Encore une fois, on a déjà parlé des comédiens et tout, mais un casting voix à la fois en français et en anglais. Remarquable, vraiment, on a eu de la chance de grandir avec des séries comme ça, les gens de ma génération.
Océane ? En revoyant certains épisodes de L'Ange de Métropolis l'été dernier, je n'avais aucun souvenir que c'était Alain Dorval qui faisait Lex Luthor. Et vraiment, quel choix de casting incroyable, oui. Tout autant que Clancy Brown qui le fait en VO. Ouais.
Et d'ailleurs, dans tous les comics que je lis depuis cette époque, Lex Luthor, même dans ma tête, a une voix extrêmement grave. Voilà, la voix d'Alain Dorval ou de Clancy Brown, parce que je me dis, ben non, en fait, Lex Luthor ne peut pas parler avec une voix fluette.
J'imagine que du coup, Jesse Eisenberg, ça a dû être un choc.
Oui, mais pour tellement d'autres raisons. Mais
moi, je continue à le défendre. Voilà, c'est un autre débat, mais...
Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, cette série animée a plus d'influence qu'on ne semble le penser sur le film James Gunn.
Oui.
Vraiment, esthétiquement et dans l'univers qu'on aperçoit pour l'instant, ça semble être...
Au niveau du casting de Lois Lane, Rachel Brosnan, c'est littéralement la Lois Lane de L'Ange de Métropolis. Hein,
Toutes les fois où t'étais pas là, tu nous mentais. Vous nous mentiez tous les deux.
Il partait sauver des vies, Jordan.
Et alors, vous nous mentiez quand même. Tu nous as menti pour protéger son secret. C'est à cause de vous si toutes ces années, j'ai eu l'impression d'être cinglée. On m'a forcé à avaler des médocs.
La santé mentale n'a rien à voir avec la vraie nature de ton père.
Je suis moitié humain, moitié comme lui, et je sais pas ce qu'il est.
Ne crie pas sur ta mère, Jordan, c'est pas sa faute. C'est moi qui lui ai demandé de ne rien dire.
Pourquoi ?
Parce que je sais quel fardeau ce serait si vous aviez tous les deux des pouvoirs. Ou pire encore, si un seul d'entre vous en avait.
Tu crois que c'est grâce à lui si on a survécu hier ?
Attends, de quoi tu parles ?
Allez, dis-lui la vérité, explique à Superboy pourquoi il est si parfait.
On pense que tes aptitudes en sport pourraient être un signe que tes pouvoirs apparaissent. Et avec ce qui s'est passé hier dans la grange...
Sans pouvoir, vous n'auriez pas survécu à cet accident, donc au moins un de vous deux doit être comme moi.
Ça t'aurait ennuyé si ça avait été moi, hein ?
Jordan,
je veux pas que tu m'aides. T'as peut-être été envoyé ici pour être une espèce de héros, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que père, tu te plantes complètement.
C'était un extrait de ce qui constitue ma série préférée de Superman depuis très 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 longtemps. Je vous invite à essayer de la voir, même si c'est un cauchemar pour retrouver l'endroit où on a accès à toutes les saisons, parce qu'il y a eu un micmac entre Canal+, TF1, enfin...
Salto,
oui, donc pour les trouver c'est compliqué, mais Superman et Lois, où vous venez d'entendre Clark Kent joué par l'incroyable, j'y croyais pas au début, mais Tyler Hoechlin, qui joue aussi bien Superman qu'il joue Clark, mais avec une maturité et tout ça, qui est souvent absente de ce rôle. Une Lois Lane qui, en plus d'avoir une sorte de proximité physique avec Margot Kidder, est incroyable, surtout dans ce qu'on lui fait jouer. Parce qu'on se rend compte que derrière la journaliste indépendante, volontaire, il y a aussi une femme qui a géré des problèmes de femme liés aussi à la perte d'un enfant. Enfin, il y a des subtilités d'écriture dans cette série qui m'ont cueilli. Et le fait qu'il ait deux enfants fait que Superman est obligé de se confronter à des problèmes pour lesquels ses super-pouvoirs sont complètement mais inutiles. Et vous venez de les entendre avec notamment Thibault Lacour pour la VF... Alex Garfin qui double Jordan Kent et Julien Crampon qui joue son frère. Je vous invite à voir cette série. Qu'en avez-vous pensé, Océane ?
J'en attendais pas grand-chose au départ. Et en fait, dès les premiers épisodes, on voit la dynamique entre Lois et Clark. On voit la dynamique avec leurs enfants. Et c'est aussi une des rares séries de super-héros qui parle de santé mentale chez les ados. Et c'est un thème qui me touche particulièrement. Et c'est vrai qu'en voyant, en tout cas, la saison 1, la manière dont c'est traité m'a vraiment bouleversée. Et je considère que comme la saison 1 de Lois et Clark, la saison 1 de Superman et Lois, c'est une des meilleures saisons qui parle de Superman et de Lois à la télévision. C'est pas une série parfaite, j'étais un peu déçue par la saison 2 où je trouvais que Bizarro arrivait trop vite. Je trouve qu'ils se sont très bien rattrapés avec la saison 3, avec cette histoire autour des problèmes de santé de Lois. Et surtout, je trouve qu'en 3 saisons, Lex Luthor n'a pas été utilisé. Mmh. Et pourtant, ça reste vraiment assez remarquable. Ce qui fait que la saison 4 me semble être un chouïa en dessous pour tous les soucis évoqués aussi, notamment par rapport à une disparition d'une partie du casting.
Et parce qu'il n'y a plus de sous.
Ouais. Parce qu'il n'y a plus de sous. Après, moi, mon léger reproche, c'est que je trouve qu'on s'acharne peut-être un peu trop sur le personnage de Lois. Et à la fin, en fait, ça m'a un peu plombée. Parce que Lois, c'est un de mes modèles de fiction. Et c'est vrai que sur la fin, par contre, j'ai cette petite réticence de me dire que c'est elle qui prend le plus cher de la série. Et ça n'entache pas mon appréciation de la série. Mais effectivement, j'aurais bien voulu peut-être une petite lueur pour elle à la fin. Mais c'est très personnel.
Renaud ?
J'aime beaucoup la série aussi et j'apprécie qu'elle soit autant ancrée sur la famille, comme tu le disais, parce que, en fait, au-delà de la famille Kent, toutes les autres histoires et tous les autres personnages sont dramatisés autour de leurs histoires de famille. On a le personnage de John Henry Irons et sa fille, même Lex Luthor qui est ramené dans la saison finale, son arc narratif principal joue autour de sa fille. Et donc c'est une idée que je trouve vraiment brillante. Qui plus est, la série est assez belle esthétiquement parlant, ce qui tranche pas mal avec tout ce qu'on a pu voir avant. Ils ont eu le budget pour avoir des effets spéciaux, ce qui fait que la série est assez spectaculaire.
Et même dans la saison 4, où pourtant, on sent que les acteurs qui sont partis, ils ont servi...
Mais en fin de saison 3, par exemple, il y a un combat assez démentiel entre Superman et un ennemi que je ne nommerai pas, pour qui voudrait découvrir la série, qui est impressionnant. Donc, oui, c'est une série pareille, comme Océane. J'ai des réserves sur certains points, mais que j'apprécie beaucoup. Et la fin m'a fait ressentir des choses que je n'étais pas prêt à ressentir par rapport à Superman, donc c'était assez fort.
Mais j'espère juste que le fait de voir ces super-héros de 40-45 ans, ça va pousser d'autres studios à montrer des versions un peu plus âgées. Par exemple, en ce moment, en comics, Ultimate Spider-Man est absolument remarquable. Et moi, je dis juste qu'en ce moment, un des acteurs qui a joué Spider-Man, qui s'appelle Andrew Garfield, lui ressemble.
Il a la barbe, oui, oui. Je vous voyais venir énormément. Mais ça m'a fait... savoir que le Peter Parker de Ultimate Spider-Man est barbu.
Il a deux enfants.
Voilà, il a deux enfants. Et qu'Andrew Garfield porte une très très belle barbe en ce moment.
Exactement.
Et qu'en plus, Océane a un énorme crush pour Andrew Garfield.
La France entière le sait maintenant. Mais justement, en fait.
Mais qui est mérité.
Mais justement, de lire Ultimate Spider-Man et de voir. Et même de lire Superman Son of Kal-El aussi. Mm-hmm. Ça donne vraiment envie de voir les studios risquer davantage de choses plutôt que de prendre à chaque fois des acteurs très jeunes.
De toute façon, mathématiquement, les lecteurs de comics ont vieilli, les plus jeunes lecteurs sont surtout sur le manga. Donc vu que vous avez une majorité de lecteurs un peu plus âgés, allez tranquillement vers les darons et les darons. Voilà, des super-héros darons, des super-héros darons. Comme ça, on se retrouve parce qu'on a tous l'impression, quand on est parents ou qu'on va constituer une famille ou qu'on a l'intention de le faire, de devoir gérer plein de choses, une double identité, comme un super-héros. Donc, nous sommes le public cible. Plus de darons et de darons dans les super-héros. Voilà. chez les super-héros. Romain Nivita, je sais que vous avez un œil très, 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 un œil d'expert sur les séries. Cette dernière version de Superman en live.
Je l'ai trouvé aussi très intéressante et avec une prise de risque. On parlait de série pour les darons, mais c'est exactement ça, puisque on voit une époque du personnage qu'on a quasiment pas vu jusqu'à présent, en tout cas jamais en télé. Et c'est pas pour rien que, au moins, la première saison a été diffusée en prime time sur TF1. Je sais pas si on se rend compte, quand même, une série Superman inédite en prime time sur TF1. Donc ça, si c'est pas une série pour les darons, excusez-moi. Mais
non, mais oui. Mais on a franchi un multiverse ouais. Avec TF1. Quand j'ai vu ça, Superman en prime time et un peu plus tard Cat Size, j'ai dit, OK, il s'est passé un truc à TF1, on a remplacé quelqu'un.
C'est tout simplement que la génération qui a vu ça en tant que gamin, c'est la génération qui est aujourd'hui à 40 balais, qui consomme. Qui va
ça
tous les dimanches
Romain.
Faire ses courses avec son caddie.
Je vous trouve très sympathique, mais là d'un coup, je vois où vous voulez en venir. C'est mal, c'est mal. Et j'aimerais également en remplacer une pour pour ma team, My Adventure with Superman.
Oui.
Un dessin animé, voilà, le dernier dessin animé sur le monde de Superman, avec une Lois, un trio, une Lois super, un Jimmy Olsen et un Clark avec un style qui marie à la fois les influences américaines et asiatiques. C'est frais, c'est bien animé et donc il y a Renaud qui fait une petite moue.
Non, mais je ne vais pas pleuvoir sur ta parade.
Mais au moins sur la saison 1, je la trouve très chouette et c'est ouais. Jack Quaid qui justement oui. jouait dans The Boys.
Oui.
Qui interprète à merveille Clark Kent.
Et je suis content qu'il soit dans un univers lumineux.
Oui, ça lui change.
Pour une fois. Bien,
ouais. Moi, dans Star Trek, c'est lumineux, il fait Lower Decks.
C'est vrai.
Mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
J'étais obligé de remplacer Star Trek, je suis désolé.
Lower Decks, c'est excellent.
C'est génial. Cet entrisme.
Bon, c'est vous l'avez remarqué ?
Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Il y aura tout le club Star Trek qui va dire « C'est bien, Romain, tu nous as bien défendu. » Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci Renaud Besbourdier. Merci Océane Dermini. Merci Romain Nivita.
Avec plaisir.
J'aimerais remercier évidemment chaleureusement Charles de Cilia qui réalise cette émission, mais également Lisiane Larbani et Manon Rax qui l'ont préparé. Et à la technique, on le remercie chaleureusement, Guillaume Ficheux. Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de l'émission 01 56 40 30 20 ou en parler avec moi sur quoi ? Parce que avant c'était Twitter, il y a Musk, maintenant Instagram c'est Zuckerberg. Écrivez-moi des lettres, envoyez-les à la maison de la radio. Alors peut-être qu'effectivement on aura moins de courriers, mais je pense qu'il faut en arriver là, hein, pour essayer d'avoir une parole qui ne soit pas récupérée par des gens qui pensent mal.
Par des Lex Luthor,
voilà. Vous pouvez d'ores et déjà écouter toutes nos émissions consacrées à Superman en podcast sur l'application Radio France.
Ah, un monde peuplé normal qui passe une journée normale. Qui suis-je ?